Non, c'est pas remboursé par la caisse maladie, sauf la visite chez le médecin au début et les médicaments, si tu dois prendre des médicaments. Et puis, bon, pour moi, c'était cher. Ça faisait chaque fois 100 francs. Donc, j'allais 4 fois pendant le mois, ça faisait 400 francs par mois.
Et ça, pendant 6-7 mois, tu as essayé. Puis après, et à travers les examens, tu as découvert que tu avais les trompes bouchées, comme on dit.
Fermé.
Fermées. Fermées.
Donc il fallait que je fasse une opération aux trompes, que c'est une opération très délicate, difficile en plus avec risque. Ou bien il y a la possibilité de la fécondation in vitro ou bien l'adoption. Moi, pour moi, j'ai choisi l'adoption à ce moment-là. Mais c'était pour moi, c'était pas une solution d'émergence parce que dans ma tête, c'était déjà si j'arrivais à faire un enfant moi-même, j'aurais bien voulu en adopter un deuxième. Donc c'est pas une solution par émergence pour moi, l'adoption.
C'était pas la dernière
C'était pas la
solution.
dernière solution.
Et pourquoi t'as pas choisi de continuer et de faire la fécondation in vitro?
Ben d'abord, c'était très cher, et puis quand on n'a pas d'argent, certaines choses, on ne peut pas toujours les faire. Et puis, j'avais plus envie de faire d'opération, et en plus, le médecin, il m'a déconseillé, parce que j'avais déjà 38 ans.
Comment t'as vécu ces échecs de l'insémination artificielle, mois après mois?
Pour moi, c'était très dur parce que c'était à chaque fois un espoir de pouvoir être enceinte et chaque fois une déception que je ne l'étais pas, que ça n'a pas marché. C'était déjà dur en devant faire l'insémination artificielle parce que pour moi, enfin pour une femme aussi, c'est une violence sur son corps. En plus, quand on ne vit pas dans la normalité comme tout le monde, c'est encore plus dur. Bon,
Parce que
effectivement, c'était très dur pour moi.
t'étais pas mariée.
Non.
Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, l'insémination artificielle?
Plus dans ces conditions-là.
C'est-à-dire?
Si je suis sûre que ça marche, et puis.
Ah ouais. S'il y
Mais je
avait un succès au
me lancerai plus.
bout.
Je ne me lancerai plus dans un truc comme ça sans savoir sûr à l'avance, oui ou non. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était une démarche importante parce que c'est à travers ça pratiquement que j'ai su que mes trompes étaient fermées, autrement je ne l'aurais jamais su.
Adopté une petite fille et maintenant tu es très contente de l'avoir fait.
Oui, je suis contente de l'avoir fait. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est pas ma fille. Ni pour moi, ni pour elle. Et je trouve que l'adoption, c'est un acte encouragé. Parce que je trouve qu'avec tous les enfants qui meurent, surtout dans les pays où ils n'ont pas assez à manger, c'est un acte de solidarité. Puis je trouve bonheur de pouvoir donner à un enfant la possibilité de vivre. Et puis, moi, je trouve qu'un enfant donne beaucoup. C'est pas seulement nous qu'on donne.
C'est chaque petit monde qui levait devant jour des gros mythes à café qui m'en sort pas tout. C'est le soleil couché, c'est la lune lambelle, la lamelle ouvrit bras pour la trappe l'arc-en-ciel. Son petit romance longtemps, grand-mère moi t'ai montré. C'est Timon qui a fait où on l'a l'école fin la guerre. Chanter c'est pour moi dire, moi remet en protéger moi. C'est là que moi content, c'est là mon vie danser. Chanter c'est siéger chaque fois nos vies crier. Litanie, tout le monde cap vivant qui cassé, crier pour l'enterrement, cap chanter en babal, chanter pour toute petite qui fait pédit papa. Chanter c'est chaque amour, la misère cap donné. Chanter ses voix la peine, l'on moi peine. Peine est en couvier n'a pendu sous l'entourage. Grand beaucoup travaille, elle récolte la papa.
Faire un parallèle entre la contraception et ces nouvelles techniques de la reproduction. Ce qu'on a appelé révolution contraceptive était et est toujours en effet essentiellement de la contraception dure, c'est-à-dire la pilule et le stérilet. Dure parce que cette contraception est quelque chose de très nuisible pour notre santé et est aussi une atteinte à notre intégrité physique. La pilule et le stérilet ont néanmoins beaucoup aidé et aident toujours un grand nombre de femmes, surtout dans des situations où l'avortement est pratiqué dans des conditions difficiles de clandestinité ou bien de manque d'hygiène, et dans des situations où les maternités successives sont un véritable esclavage pour les femmes. La pilule est quelque chose qui ne nous approche pas de notre corps, quelque chose qui nous a menés, par l'idéologie qui l'a accompagnée, dans des drôles de situations et dans des drôles de rapports à notre sexualité. Sous prétexte de contrôler notre fertilité avec la contraception dure, c'était autre chose qui se jouait. De la même manière, avec les nouvelles techniques de reproduction, c'est encore sur notre corps que ça se passe, et encore une fois, sous prétexte de soigner la stérilité, c'est autre chose qui se joue. Le bébé éprouvette, fécondé in vitro, sera bientôt complètement fabriqué dans des laboratoires. Déjà, le temps qu'un être humain est scientifiquement et techniquement obligé de passer dans le ventre d'une femme est toujours plus court. On est bien loin des 9 mois obligatoires qu'un bébé doit passer dans le ventre de sa maman pour se développer. le développement des soins des enfants prématurés et le développement de la fécondation in vitro progressent à une vitesse grand V. C'est ça qui se prépare. Ce n'est pas tant la grossesse masculine, mais bel et bien la gestation in vitro. C'est ça qui intéresse les chercheurs actuellement. Les femmes n'ont jamais vraiment contrôlé leur fertilité et leur grossesse. Notre ventre a toujours été l'objet d'enjeux dans lesquels nous n'avons jamais eu aucun pouvoir. Aujourd'hui encore, et partout dans le monde, rien n'est résolu de ce côté-là. Les hommes, les gouvernements, les politiques démographiques et familiales, les rapports sociaux, les rapports économiques et familiaux, tout un ensemble de forces et de situations, tissent encore une toile dans laquelle nos ventres sont loin d'être à nous. Dans ce contexte de rapport de force, se profile l'expropriation de la gestation. Encore une fois, les femmes seront obligées de se dire que ce n'est pas notre biologie, ce n'est pas notre corps naturel qui est fait de manière que nous pouvons porter les enfants. Ce n'est pas ça qui devrait nous gêner ou que nous devrions considérer comme étant à l'origine de notre oppression. Ce n'est pas de notre corps que nous voulons nous débarrasser, ni de ses potentialités. Il s'agit du contrôle que les hommes ont toujours et partout et à tout prix voulu se garantir sur cette fonction-là de notre corps. Et à ce moment-là, cette fonction devient immédiatement sociale et économique. Il s'est toujours agi de contrôler le travail que les femmes effectuent à travers la maternité. Ce sont les conditions dans lesquelles nous avons et nous élevons les enfants qui sont source d'esclavage. La maternité n'est donc pas un esclavage en soi, ce sont les hommes qui maintiennent les femmes en esclavage pour contrôler leur maternité et le travail gratuit qui en découle.
Il vit à l'intérieur de moi, secret, petit, envahissant. Parfois il me vole mes rêves, enfermant les yeux. Tombant sur une plage où la mer serait toujours bleue, il ramasse des coquillages pour me construire des châteaux et m'offre les plus beaux voyages. Envahissant, parfois il me vole mes rêves, ses cheveux sont bouclés et tout, et ses deux mains, comme les tiennes, ne lâchent plus ce qu'elles tiennent. Fait renaître mon printemps, et comme quand tu es heureux, ses yeux ont des couleurs de fleurs. Il vit à l'intérieur de moi, secret, petit, envahissant. Parfois il me vole mes rêves, mais quand mes yeux sont trop brillants du sel du malheur qui les brûle, les siens deviennent noirs d'oubli. Il me semble le voir souvent, et du plus profond de moi-même éclabousse un rire d'enfant. Il vit à l'intérieur de moi, secret, petit, l'enfant, l'enfant que je n'aurai jamais de toi.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos réflexions sur les nouvelles techniques de la reproduction, ce profil Big Science. Pour terminer cette émission dense et fournie, qui j'espère vous a posé beaucoup de questions, nous avons aussi voulu la terminer par quelques questions. Première question. Il y a actuellement un procès aux États-Unis entre une mère porteuse qui a décidé de garder son enfant et le couple qui l'a commandé. Pour qui êtes-vous ? Deuxième question, quand on ne fait pas d'enfants, est-on égoïste, démodé, ringard, asocial ? Troisième question. Quand un homme est stérile, que fait-on ? On le soigne sur le ventre de sa femme. C'est elle qui doit courir chez le médecin. C'est elle qui repère son ovulation et se fait inséminer. Pourquoi n'essaye-t-on pas de soigner les hommes de leur stérilité ? Quatrième question, savez-vous que ça marche, que ça ne marche pas toujours ces méthodes ? Même pas 10% de succès, c'est une insémination après l'autre, avec échec après échec, c'est une réimplantation d'embryon après l'autre, une deuxième, une troisième, échec, toujours, souvent. Qu'est-ce qui est plus dur, d'assumer sa stérilité et d'en faire le deuil, ou de croire que ce sera toujours possible ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à où ? Thank you. Cinquième question. Aimeriez-vous être un bébé éprouvette? Quelques questions parmi tant d'autres que ces nouvelles technologies de la reproduction nous posent. Quelques questions aussi qu'on a voulu vous poser directement. Alors, on aimerait que vous y réfléchissiez peut-être. On espère que ça a suscité chez vous plein de réflexions, plein de réponses peut-être, ou des débuts de réponses. Alors, on vous donne rendez-vous bientôt sur 93.8 MHz, sur Radio Pleine Lune, pour essayer ensemble de poser d'autres questions, de trouver ensemble des éléments de réponse. Alors, à très bientôt sur Radio Pleine Lune pour continuer ce débat qu'on a un petit peu commencé ici, qui commence un peu partout dans la presse, dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui en discutent. Alors, continuons ce débat. Rendez-vous. À très bientôt sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, de vous documenter sur ce sujet, on a quelques titres de livres. Il y a premièrement le dernier numéro de Femmes Suisses, le journal suisse féministe que vous connaissez bien maintenant, qui traite, le numéro de janvier traite de ce thème dans un dossier bien fouillé. Et surtout, il propose un questionnaire. Le questionnaire des associations féminines suisses, et ça vaut peut-être la peine d'y répondre et de le renvoyer pour que ce débat arrive aussi jusqu'aux instances qui vont peut-être légiférer. Il y a un très beau journal qui s'appelle L'Enfant d'abord, et avec un numéro spécial, le numéro de novembre 86, sur les mères porteuses, c'est du bidon. C'est aussi un dossier très très fourni. Il y a un livre très très beau, qui s'appelle Maternité en mouvement, qui est le compte-rendu d'une conférence qui s'appelait Les femmes, la reproduction et les hommes de science, sous la direction de Anne-Marie Villaine, Louise Gavarini et Marie Le Coadic. Et c'est aux éditions Saint-Martin, Maternité en mouvement, avec toute une série d'articles qui sont les comptes-rendus de cette conférence. Il y a encore le livre de Geneviève Delezy de Parseval, qui s'appelle L'enfant à tout prix. C'est un livre qui date un peu. C'est un des premiers livres sur ce sujet. Il date de 1983. Alors, bien sûr que les choses qui y sont dites ont été répétées dans d'autres livres, mais c'est, à ma connaissance, un des premiers livres sur ce sujet. Il y a le livre de Jean Testard, ce biologiste qui a mis au point la méthode de la FIVET et qui a maintenant décidé d'abandonner ce champ de recherche, qui s'appelle l'œuf transparent. Il y a le livre très très beau qui est les comptes rendus, qui sont les qui a été fait à partir d'une série d'émissions de la télévision française qui s'appelait Les Sorciers de la Vie. Alors les journalistes qui ont fait ces émissions ont écrit un livre où ils retranscrivent une partie des rencontres qu'ils ont eues. Ça s'appelle aussi Les Sorciers de la Vie. Et puis voilà, c'est en gros les livres qu'on a lus, qu'on a aimés, mais il y en a énormément d'autres. Alors cherchez et faites-nous le savoir. Notre téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Alors cette émission était illustrée dans la musique, musicalement par Laurie Anderson avec Big Science. Il y avait le groupe de Pauline Oliveras, Chantal Grimm, Edith Nilon, Désert Mirage par le grand orchestre d'Alan Silva, Toto Bisante, une chanteuse haïtienne, et Juliette Gréco qui chantait L'Enfant Secret, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz.
Ne quittez pas l'écoute parce qu'à 22h, une nouvelle émission, 22h à 22h30, lesbienne en direct, et puis de 22h30 à 24h, de la musique improvisée. Jusqu'à 22h, on écoute un nouveau groupe, un band de femmes canadiens, Wonder Brass, elles chantent L'heure des loups.